L'actualité du jeu vidéo, on va la commenter, on va revenir, donc je le disais, sur la disparition de Hinomata Mutsumi. C'était le 10 mars dernier, mais l'annonce n'a été rendue publique que le 18. C'est un schéma auquel on est désormais habitué avec la disparition des grands de l'animation japonaise.
Toriyama, c'était aussi le cas.
Toriyama, c'était le cas, là aussi on a eu l'occasion d'en parler durant l'émission Hommage. Voilà, Hinomata Mutsumi, que l'on connaît forcément, vu de France, ne serait-ce que pour la série des Tales of, à laquelle elle a grandement contribué en signant de nombreux épisodes depuis Tales of Destiny, c'était en 1997. Il y a beaucoup d'épisodes, c'est vrai qu'il y a toujours une alternance avec Fujishima.
Et parfois des combos.
Et parfois d'autres artistes. Voilà, c'est le
si on a. Parfois il faisait en.
Parfois en combo, exactement, en combo, ouais. Pour Tales of Xillia. Mais c'est. Voilà, si on a privilégié la communauté française de l'animation japonaise et du jeu vidéo, c'est par l'intermédiaire de cette série, mais pas seulement, puisque oui. Pour ceux qui ont suivi l'animation japonaise au début des années 90,
les années 80,
après, dans les années 80, puisque voilà, elle s'est lancée dans l'animation au tournant des années 80, eh bien, il y a eu plusieurs œuvres qui ont porté sa patte, notamment quelques-unes qui sont très connues, restées célèbres.
Alors, y a quelque chose aussi qu'il faut ajouter. Au-delà, on va aller un peu au-delà de Tales, bien sûr. D'abord, ça nous touche particulièrement Greg et moi parce que c'est quelqu'un qu'on a eu la chance de rencontrer et d'encadrer à l'époque où il y avait cette convention qui s'appelait Cartooniste, qui se déroulait à Toulon, qui était la première grosse convention majeure de France en fait. Et on a eu les invités les plus prestigieux se sont pressés à cette convention, dont Hinomata Mutsumi, qui était vraiment une superstar. Il n'y avait qu'un seul invité par convention. Et Hinomata Mutsumi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a suivi d'abord le cursus animation. C'est-à-dire qu'elle a d'abord travaillé comme chara-designer, comme animatrice. Elle a animé à elle toute seule un bout d'épisode entier de Saint Seiya. Je ne sais pas si on pourra le mettre ou alors dans la version Director's Cut. Mais le combat de Shiryu contre Seiya, c'est elle. Tu sais, le fameux combat où il doit être frappé
dans le cœur.
Dans le cœur, c'est elle. Donc, elle avait été formée à une rude école, c'est-à-dire une école qui abîme les gens parce que l'animation, on ne vit pas vieux, comme on dit dans l'animation. Et elle a eu son premier contact avec la France. Ça a été une œuvre qui s'appelait L'Empire des Cinq en France. Qui s'appelait Acrobunch au Japon et c'était déjà une série de mecha. Elle a pu toucher à peu près tous les styles différents, donc elle a que ça soit un peu plus shoujo, que ce soit robot, que ça soit du n'importe quel genre. Et là, donc là, c'est le fameux générique de l'Empire des Cinq, Acrobunch, dont elle a signé tous les personnages principaux. C'est qu'ils sont les membres d'une même famille et c'est un de mes génériques préférés d'ailleurs, tout court. Je trouve que c'est vraiment la chanson, l'animation. C'était dirigé par Yoshinori Kanada, dont on a déjà parlé ici. Et voilà.
Il y a eu plusieurs séries connues en France où on a participé. Hein. Il y a eu l'Académie des Ninjas.
Et au Japon, il y a eu Cyber Formula, qui est aussi important parce que c'est
Cyber Formula, oui, qui est des années 80,
qui était le début de la tendance de Sunrise de vouloir faire aussi des trucs.
Qu'est-ce que je dis,
de bagnole. De bagnole. Voilà, donc c'était. Elle a touché vraiment à tout. Et ensuite est venu le succès de Tales. Et d'abord, elle n'a pas été au Tales au début, elle a été sur Tales of Destiny.
Surtout, elle a viré. Enfin, elle était essentiellement dans l'animation, ouais. Soit directrice de l'animation, soit en charge du design des personnages. Et puis, son succès a été tel qu'elle a plutôt pris la branche de l'illustration. Illustration de romans.
Elle a illustré Itsunomiko.
Et elle a pu voler de ses propres ailes en freelance. Ce qui est. Dans l'animation, finalement, quelque chose assez rare par rapport au nombre d'élus.
Elle a illustré Itsunomiko, qui est très important, et donc il y a eu le dessin animé qui en a découlé, mais ensuite, elle a illustré Dragon Quest, figure-toi, elle a illustré les romans de Dragon Quest, les premiers, en plus, les six premiers. C'est vraiment, elle a une patte très très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans le style commercial japanime. Parce que ces personnages ont une espèce de grâce supplémentaire. Moi, je suis comme Greg, je préfère les épisodes de Tales of Hinomata Mutsumi. Tu veux rajouter
une grâce féminine masculine, c'est-à-dire qu'elle savait faire des personnages virils, mais avec une certaine élégance. C'est ça se voit d'ailleurs dans le personnage du beau gosse de Acrobunch, qui est le grand frère. qui a été un personnage hyper doginisé. D'ailleurs, elle-même faisait beaucoup de fanzines qu'elle commercialisait au Comiquette avec, avec des copines mangaka. Enfin, c'était, c'était une femme qui était très importante dans, le, dans la contre-culture japonaise. Dans le monde des fanzines, c'était aussi quelqu'un qui était très actif dans le domaine des illustrations. Elle faisait beaucoup d'illustrations, soit des fan art aussi, comme ça, gratos. Elle a fait, on voit le générique de Brainpower sur lequel elle a bossé. Justement, où elle a fait une galerie de personnages assez saisissants, parce que justement, le but c'était de pas faire otaku.
C'est sorti après dans le post-Evangelion. Et c'était une série qui s'inspirait un peu de ce que Evangelion a pu faire, mais le but était de se démarquer. C'était une série compliquée à aimer, mais qui n'est pas dénuée de charme.
Ah oui, et je pensais pas que le générique était aussi
effectivement
peu dénué de charme.
C'est ce que j'ai dit à Hubert. J'ai dit, je sais pas si on le gardera. On verra ce qu'on
On verra si YouTube laisse passer. Si vous voyez des images fixes, c'est que YouTube a été intransigeant.
Voilà.
Sur la nudité du générique de Brain Powered.
Et du coup, ensuite, bah, c'est surtout. Bon, elle a connu surtout pour les jeux vidéo. Hein, donc, elle a quand même une grosse carrière dans les Tales. Elle en a fait toucher à plus de 8 ou 9. C'est quand même. Et elle a illustré aussi beaucoup de jeux de notre enfance, genre Arcus Odyssey, qui est une jaquette assez magnifique, vraiment. Voilà, c'est une grande illustratrice et aussi quelqu'un de éminemment sympathique. Alors ça, c'est vraiment, humainement, elle était... C'est quelque chose qu'on peut pas... On ne pourra jamais savoir sur Toriyama, puisque peu de gens l'ont vu, mais alors pour Inumata Mutsumi, on peut vous le dire, c'était quelqu'un de vraiment très bien.
Oui. On peut revenir peut-être aussi sur une fameuse anecdote qui a été largement relatée, c'est sa rencontre avec Michael Jackson.
Ah oui, évidemment.
Qui a été relatée notamment dans le magazine, dans le mensuel New Type. Oui, puisque Michael Jackson, quand il était en tournée pour la tournée Bad, entre 87 et 88.
Tu me vieillis un peu là.
Oui. Eh bien, il est tombé en d'admiration devant un des romans illustrés par Inumata Mutsumi. Et donc, il a demandé à ce qu'elle puisse venir dans sa réception, dans sa chambre d'hôtel au Japon. Et ils ont passé une après-midi ensemble.
À dessiner des mangas.
À dessiner. Donc, Michael Jackson, bon, ça a été épris de pop culture japonaise.
Regarde comme elle le dessine. Ouais. C'est incroyable. Ouais.
Et c'est vrai que bah, du coup, elle a illustré le roi de la pop directement après cette rencontre. Et,
C'est vraiment une grande dame. Hein. On perd en très peu de temps quand même Rieko Kodama, on perd Inumata Mutsumi, qui sont vraiment des grandes dames qui ont marqué le jeu vidéo de manière importante.
Et la pop culture d'une manière générale. C'est-à-dire que Inumata Mutsumi, tu parlais de Gundam Seed tout à l'heure, Inumata Mutsumi, elle a filé des coups de main. Elle filait des coups de main à tout le monde. En fait,
elle faisait les uniformes.
Depuis le début des années 2000, en fait, Inumata Mutsumi avait son rang de serviette chez Namco Bandai et elle leur rendait service. Elle a fait même non crédité. Elle a fait des costumes de Soul Calibur. Elle a fait des costumes de Tekken. Alors là, elle a été créditée sur Tekken, mais elle a filé des coups de main sur Soul Calibur. Et puis c'était une vraie gameuse. C'était une vraie otaku de la même génération et de la même veine que Rieko Kodama, comme on en parlait lorsqu'on lui rendait hommage, malheureusement, mais c'est une héritière de cette génération, la même génération que Rumiko Takahashi, que Clamp, qui viennent en fait de la scène fanzine et qui, bien qu'elles vivent de leur art, continuent à être des grosses otaks, quoi, des grosses geeks. Moi, je me souviens, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à parler d'elle parce que moi, c'était une copine, donc c'est compliqué. Mais j'ai des tas de souvenirs rigolos où... par exemple, je pense que c'était un peu avant Tale of the Abyss, je crois, et on discutait et je lui disais, ah, c'est dommage, il y a Soul Calibur 3 qui sort bientôt. Elle dit, ah, mais je crois qu'on l'a au bureau, ça se trouve, je pourrais me le faire livrer à la maison et puis on pourrait y jouer. Genre, elle avait un meuble arcade à la maison, quoi, et Namco pouvait lui envoyer des jeux. Et elle disait, ah ouais, mais non, après ils vont me défoncer parce que le gars de Soul Calibur va se faire virer parce que si je suis en retard sur mes designs de Tales. Enfin, les gens savaient qu'elle pouvait être en retard si on lui mettait un jeu vidéo entre les mains. Et c'était une énorme joueuse de Dynasty Warriors. Où on discutait beaucoup de Dynasty Warriors, parce que déjà j'étais le seul étranger qu'elle connaissait qui jouait à Dynasty Warriors. Et Et elle finissait, enfin, elle les a tous finis avec tous les personnages.
Ah oui, ouais, ça prend du temps.
Elle finit tout, elle finit tous les Dynasty Warriors avec tous les personnages, avec toutes les armes, tu sais, il fallait les armes
assises et tout. Voilà. Les modes KO et tout.
Donc elle était à fond là-dessus. Elle jouait beaucoup aussi, donc, comme je disais, à Soul Calibur. Et son dernier grand jeu, c'était les Monster Hunter. Elle a fini tous les Monster Hunter. Elle était à fond dessus. Et c'était, enfin, c'est quelqu'un qui jouait énormément et qui était, enfin, c'était pas une, elle était capable de s'enfermer chez elle pour travailler ou pour jouer beaucoup, mais c'était aussi quelqu'un, quand on l'appelait pour aller dîner ou pour aller boire un verre, elle était toujours, enfin, c'était pas une otak qui restait coincée chez elle, quoi. Elle sortait. Moi, je me souviens, on était allés ensemble à un concert d'Akira Kushida, donc le chanteur de Muscle Man et de XOR, on faisait des sorties ensemble, quoi. Et c'était vachement sympa. Et il y a un truc qu'elle aimait moyen, c'était évidemment quand les fans lui demandaient des dédicaces. Ça, c'est quelque chose qui l'embêtait un petit peu. Ce qui est paradoxal, parce que quand on lui en demandait elle le faisait avec plaisir, mais quand c'était son moment à elle, tu vois, il fallait pas venir l'embêter. Mais c'était quelqu'un quand même d'assez fragile. Moi, je l'ai. Alors, je dirais pas qu'elle était souffrante constamment, mais je l'ai toujours connue avec au moins une ou deux maladies en cours, quoi. Ça a été quelqu'un que j'ai perdu de vue à la fin des années 2010 parce que justement, elle était assez fragilisée et voilà, les derniers contacts qu'on a eus avec elle, c'était juste avant le Covid. Voilà, moi, j'aurais jamais cru qu'elle partirait aussitôt, mais aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir insisté. Tu sais, parce que des fois, tu te dis, bon, je rappellerai plus tard et tout, puis les voyages au Japon, ça se passe, et puis finalement, il n'y en a plus. Et
parfois, on n'a pas le temps sur place.
Même si c'est une copine, c'est quelqu'un qui est très occupé. Enfin, tu as toujours peur de la déranger. C'est un de mes regrets, c'est d'avoir jamais pu la revoir après le Covid, malheureusement. C'était un peu un coup de massue d'apprendre sa disparition, malheureusement. Voilà.
Il y a un truc que je trouve qui la distingue vraiment des autres artistes, c'est qu'elle avait un amour et une passion de ses personnages. C'est considéré que ses personnages étaient comme une part d'elle. J'ai rarement vu ça autant chez un artiste, genre... Quand tu lui parlais des thèses de dessinée, et pour elle, les personnages de thèses de dessinée, c'est une part d'elle-même. C'est en tout cas l'impression que j'en ai eue quand je la côtoyais et tout ça. C'était vraiment une super personne, quoi.
Moi, je me souviens... alors, c'est marrant parce que c'est paradoxal, c'est un souvenir avec elle, mais elle n'était pas là. Je rentre du TGS où ils annoncent... C'est la première fois qu'on voit... Je ne sais plus lequel, c'était Tales... celui avec le héros enfermé dans la avec la fille enfermée dans la glace, comment il s'appelle, le Tales of Vesperia, je crois. Non
c'est pas Vesperia,
celui avec le mec avec les cheveux bleu gris.
Tales of Rebirth.
Voilà, Tales of Rebirth. Je rentre du TGS où ils ont montré pour la première fois Tales of Rebirth, et dans le train du retour, je lui envoie un texto. C'était des textos à l'époque. Je lui envoie un texto et je dis « Ah, j'ai vu Tales of Rebirth, c'est vachement bien, le héros, il est beau. » Parce qu'elle avait changé de style pour Tales of Rebirth, elle avait fait des personnages plus adultes. Et elle était trop contente, elle me dit « Ah, c'est super, parce que j'avais peur que justement les gens, ils aiment pas, parce que c'était moins kawaii et tout. » Parce que les personnages avaient des plus grandes proportions. Je crois que c'était d'ailleurs la première fois que les personnages n'étaient pas en SD pendant les combats. En tout cas, il y avait une patte graphique qui changeait, et je me souviens qu'elle avait été hyper contente que je lui donne le ressenti, parce qu'elle dit tout le monde me dit que c'est génial, mais je les crois pas. Et je sais pas pourquoi, mais quand c'était moi et un autre copain qu'elle fréquentait aussi qui lui disait ah ça c'est bien et tout. Je sais pas pourquoi ça la rassurait. Donc peut-être qu'elle se disait que si, enfin, c'est vrai qu'elle nous a déjà entendu dire de la merde sur d'autres trucs. Donc oui, elle s'est dit le jour où je fais un pas de côté, je vais me faire, ils vont pas me louper. Donc ça la rassurait peut-être, je sais pas. Mais non, je me souviens qu'elle était assez anxieuse sur ce jeu-là. Mais voilà, c'était vraiment une super personne. On a vraiment bien rigolé à échafauder des théories sur tout un tas de personnages de la pop culture. Enfin, c'était... Elle aimait bien... comment dire, essayer d'imaginer des personnages hyper virils mais en version Harlequin. Enfin, ça c'était un jeu qu'on était capable de faire au resto, de dire pendant des heures, ah tiens. Et oui, parce qu'en fait, une de ses meilleures amies était la mangaka qui avait adapté la collection Harlequin en manga. Et du coup, régulièrement, c'était « Ah, mais si on faisait un Harlequin avec les personnages de Yu Yu Hakusho, par exemple. » Enfin, c'était avec les frères Toguro. C'était vraiment, c'était bien marré. Mais voilà, c'est un personnage très important du jeu vidéo et de la pop culture qui disparaît. C'était aussi quelqu'un qui a beaucoup inspiré les nouveaux illustrateurs des années 2005-2010. Ces personnages, tu sais, qui sont fins, mais pas fluets. Mmh. Parce qu'elle dessinait des personnages qui étaient quand même musclés, mais secs. Et ça, à une époque où, justement, tout le monde était assez filiforme, ça détonnait pas mal. Et je pense que ça, les chevelures abondantes... voilà, des yeux, des regards très très profonds. Enfin, il y avait vraiment une délicatesse qui émanait de ces personnages, même les plus bourrus. Je sais que elle dessinait des hommes animaux parfois qui étaient marrants, parce que ça te faisait des loups-garous avec le poil soyeux. Enfin, c'était marrant, mais du coup, ça changeait. Ça faisait un peu des hommes animaux qui prennent soin d'eux. Enfin, c'est vrai que pourquoi ils ne se brosseraient pas, tu vois. Et non, moi, j'ai vraiment. C'était quelqu'un que je connaissais. Et en plus de ça, j'appréciais énormément son travail. Il y en a un qu'on n'a pas cité, mais qui est vraiment, je pense, un dessin animé magnifique, qui a complètement disparu aujourd'hui. Et c'était un des héros c'était un des trois grands dessins animés d'Heroic Fantasy des années 80-90 que tout le monde s'est changé en Laserdisc. Oui. Ouais. Et qu'aujourd'hui, tout le monde a oublié. C'était non. The Weathering Continent. Weathering Continent, qui était une traduction un peu bizarre de
Kaze no
Tairiku, donc le continent du vent, en fait. Et je sais pas pourquoi ils ont appelé ça le The Weathering Continent, enfin le continent météorologique, c'est bizarre. Mais c'est un très beau film, assez contemplatif, mais très beau. Donc elle a fait tout le design des personnages. Je crois qu'elle a filé un coup de main à la réalisation. La pochette du CD, d'ailleurs les musiques sont extraordinaires aussi. Elle a fait la pochette du CD, qui est une de ses plus belles illustrations, sur celluloïde d'ailleurs. Et voilà, si on peut lui rendre hommage, c'est évidemment jouer à des Tales, mais aussi regarder The Weathering Continent, qui je pense était son œuvre de jeunesse la plus personnelle.
Très bien. Merci Greg, on va poursuivre nous avec, on va rester chez Namco, où on a appris le départ en retraite de trois prestigieux créateurs de la maison. Ils sont même réunis sur cette photo. Alors à droite, il y a Junichiro Koyama, qui a été producteur sur la série Idolmaster, qu'on a longtemps évoqué au gré des différentes émissions, mais il n'a pas fait que ça, également... Gundam Senjo no Kizuna, qui lui aussi était un énorme succès dans les salles d'arcade à la fin des années 2000. Vous savez, la borne...
Oufissime.
Le cockpit, voilà, recréé, dans lequel on pouvait grimper, ou également des jeux de pêche, Tsurid Spirits ou Taiko no Tatsujin. Bref, et sur la fin, il faisait pas mal d'expériences VR dans les VR zones de Bandai Namco.
On
l'a testé chez Gamekult. Hajime Nakatani était lui producteur et réalisateur, producteur sur les Tekken, les Soul Calibur, les Time Crisis, ou réalisateur sur Star Blade, un des shoot 'em up du milieu des années 90. Et enfin, Shigeki Toyama, lui, a longtemps travaillé sur Xevious, qui est un jeu shoot 'em up absolument fondamental de l'histoire de Namco. Et bien, ces trois hommes,
ils repartent avec un joli bouquet,
une belle retraite,
et
aussi,
on l'espère, une belle retraite. Mais j'espère. Voilà, ça prouve aussi que certains des grands créateurs des années, ces années-là, bah, eux aussi atteignent au fur et à mesure, au fil du temps, l'âge de la retraite. Et,
Vieillir, c'est aussi voir ses créateurs, les créateurs de ce qu'on a aimé, ses idoles, etc., partir petit à petit. Quoi.
Ouais, c'est sûr.
Il nous reste Sakurai.
Oui. Ouais. Bon, allez, on poursuit avec une actualité un petit peu plus réjouissante. Notamment, toutes les récompenses qu'ont reçues certains films japonais durant la cérémonie des Oscars. Oui, on a failli le zapper, mais c'était en début de mois. Le garçon et le héron, Hôtel Chihiro remporte l'Oscar du meilleur film d'animation.
Ah, le OZEF absolu de Miyazaki.
Ah bah non, c'est parce que dit Daniel, je crois.
Non, le OZEF absolu.
Ah, le OZEF pour Miyazaki lui-même, d'accord.
Miyazaki, si tu veux, il s'est pas levé la nuit.
Il a dû lever un sourcil.
Il y a quand même une petite vidéo.
Il y a une petite vidéo des employés du studio Ghibli qui sont très contents.
Il y a un échange avec Toshio Suzuki, mais je suis pas sûr que c'était.
Il y a une petite vidéo, c'était en présentation pour le.
Oui, c'était en présentation pour les Oscars.
Suzuki, il est content, il l'a vendu à Netflix dans le monde entier.
Il avait l'air d'en avoir rien à secouer.
Toshio Suzuki, son producteur, je te l'avais mis. Bien, voilà, on les voit là.
Alors, ça fait très bizarre. Oui, c'est vrai qu'il s'est rasé.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas.
Miyazaki n'a plus sa moustache.
Ouais, plus sa moustache.
Des images récentes, en tout cas, je ne le visualisais pas.
Et du coup, il fait son âge.
Il fait son âge, effectivement. L'autre grande récompense, c'est peut-être une surprise, enfin, pas quand tu vas voir le film, mais c'est l'Oscar reçu pour Godzilla Minus One pour les effets spéciaux.
C'est bien mérité.
Lui, pour le coup, là, l'équipe était vraiment au taquet. Ça faisait plaisir de les voir avec le petit Godzilla avec son nœud pape, les petites figurines de Godzilla. Le réalisateur a vraiment vécu sa meilleure vie.
Ah, oui.
Il allait saluer tout le monde.
Honnêtement, Takashi Yamazaki est monté sur scène avec le reste de son équipe.
C'est comme s'ils avaient gagné.
Yamazaki, il était comme dans un magasin de jouets. Tu sais, il allait faire des photos avec Stallone, il allait faire des photos avec Spielberg. Il était là, oh mon héros.
Sa carrière a commencé il y a 40 ans.
Et Spielberg qui raconte qu'il a vu Godzilla Minus One 3 fois et que c'est un très grand film. Enfin, t'imagines. Ouais. C'est comme
l'aboutissement de ta carrière.
Il avait des étoiles dans les yeux, il a multiplié les selfies, ça faisait vraiment plaisir pour lui, tu sais, ça me rappelait quand Roberto Benigni il avait gagné son truc et qu'il sautait partout là, c'était un peu le même esprit.
Ça fait très longtemps qu'un film japonais a pas été autant salué.
C'est la première fois qu'un film japonais gagne alors si je me souviens bien, c'est la première fois qu'un film asiatique gagne le prix un prix technique d'une manière générale,
parce que Kurosawa sinon il en a eu quelques-uns,
oui, mais c'était toujours le prix du meilleur film étranger. Ouais. C'est la première fois qu'un film asiatique gagne un prix technique aux Oscars,
à l'exception de Parasite. Il y a eu Parasite qui a meilleur film, qui a gagné le meilleur film, mais c'était presque miraculeux, il en a gagné beaucoup comme ça.
Mais voilà, félicitations à toutes les équipes.
On en a beaucoup parlé
coup
en plus.
Coup,
si,
ouais,
donc,
bien sûr,
c'était,
ouais,
c'est vrai que le Japon, en France, on était contents parce que Anatomie d'une chute a gagné. Mais le vrai événement de ces Oscars, ça reste quand même la double récompense. C'est aussi l'avènement de la pop culture asiatique et japonaise à Hollywood. Ils ne peuvent plus l'ignorer là. Ouais. C'est vraiment. Il y avait eu Chihiro il y a une quinzaine d'années, mais. Qui était presque un accident industriel.
Miyazaki a eu du bol parce qu'il n'y avait pas de gros Pixar en face, il n'y avait pas de Disney, gros Disney en face.
Il y avait. Comment il s'appelle là, le Disney des 60 ans
Celui que tout le monde déteste,
Wish. Mais moi je pensais vraiment que c'est lui qui aurait eu le prix, genre hommage à Walt Disney machin. T'avais Spider-Man aussi, comme le précédent l'a eu, ça aurait pu être un prix genre allez tiens Sony, voilà. Mais non, c'est le garçon et le héron, et c'est Godzilla,
et ça change absolument rien pour Miyazaki. Il est allé dormir après.
Voilà. Non, mais c'est vraiment. Enfin, pour Godzilla, c'est. Moi, ça m'a vraiment ravi parce que c'est aussi le. Enfin, Godzilla, c'est un monument du cinéma, de la pop culture et du cinéma. Et faut dire ce qui est, c'est que Godzilla est aussi connu aux États-Unis qu'au Japon, pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que Godzilla est très connu, mais en tant que film kitsch, mais aussi en tant que Madeleine de Proust de beaucoup de gens qui aujourd'hui sont des réalisateurs de cinéma. Je pense on en parlait tout à l'heure, à Spielberg en premier, parce que Godzilla, donc, c'est des films qui, depuis les années 60, sont multi-rediffusés sur le câble aux États-Unis. Donc le premier contact avec Godzilla qu'ont les réalisateurs de notre génération et ceux d'avant, c'est justement les monstres en caoutchouc qui font du catch sur les chaînes du câble, et c'est des objets de fascination pour ces gens-là, pour tous les geeks des années 70-80 que sont Spielberg, Lucas et même un peu plus tard les Joe Dante. Et je pense que le fait que Godzilla soit enfin récompensé, qu'un Godzilla ait un Oscar après 70 ans, c'est ça, hein, c'est 70 ans Godzilla. Enfin, je pense que tout le monde était content en fait. Mmh. C'est l'Oscar qui fait plaisir. Ça fait un peu Oscar pour l'ensemble de sa carrière pour Godzilla. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Enfin, tu vois, c'est bête à dire, mais j'étais content que Godzilla gagne un Oscar, et puis la leçon, et enfin, pour, il y a beaucoup de travailleurs à Hollywood qui étaient aussi contents de la leçon, de dire bah, c'est un film de 15 millions de dollars qui gagne oui. les meilleurs effets spéciaux face à tous les Marvel à 200 patates
qui font du crunch en plus.
C'est vrai. Parmi les différentes adaptations de jeux vidéo en film ou en série d'animation, on a appris eh bien que Sakuna of Rice and Rune, à la fois le jeu de riziculture et le jeu de plateforme action, aura droit à une adaptation animée en 2024.
Extra, un jeu extra.
Par le studio PA Works, déjà responsable de l'adaptation animée de Uma Musume.
Oui.
Et Sakuna, on le sous-estime, mais c'est quand même 1,5 million d'exemplaires écoulés tout au long de sa carrière.
Le Silent Hit, on en a déjà parlé. Ouais. Hein, c'était tellement surprenant, cette espèce de...
j'ai envie d'y rejouer.
De riziculture, plateforme... Ouais.
Fin de tournage également pour Sonic 3, le film qui sortira en fin d'année comme prévu. Et puis, durant le Mario Day, c'était le 10 mars.
Attendez, excusez-moi, je fais un petit stop sur Sonic 3. Elle est sortie, la série Knuckles, ou pas? Je ne me souviens plus.
Pas encore.
Non, pas encore.
Non,
hein.
Pas.
Non. Sinon, on aura entendu parler. Ouais.
On a eu un autre Sonic qui est sorti l'an dernier, mais pas celui-là, je crois.
Ah bon?
Ouais.
D'accord.
Eh bien, donc, le Mario Day a été l'occasion d'officialiser la suite... Déjà teasé. Dans,
étonnant.
Oui. Quoi, un film qui rapporte
donc,
un milliard
Super
de dollars
Super Mario le film, donc peut-être le match retour hein, pour Greg, on ne sait pas. Ouais. 1,3 milliard de dollars de recettes, c'est sûr que ça motive un peu. Ouais. Plus de 168 millions de spectateurs de par le monde. La date de sortie est déjà calée, 3 avril 2026, donc ne manquez pas l'émission Simulation Turbo numéro de mai de l'an prochain. Ah non, 2026. Ah non, il va falloir durer hein, jusque-là, mon cher Hubert.
Hubert,
ouais.
tu prends ton billet de train.
Ouais. toujours Aaron Horvath et Michael Jeleny aux commandes, tout comme l'équipe des artistes d'Illumination Studio Paris, puisque voilà, c'est l'équipe de Paris qui a travaillé dur. Et évidemment, tout ça a été annoncé par Miyamoto dans un poste qui commence toujours par This is Miyamoto. Moi, ça me fait toujours, ça m'envoie toujours des, ouais, des étoiles dans les yeux.
Écoute, moi, je suis.
Ah bah oui.
Ah mais je suis fébrile d'attente. J'en peux plus d'attendre. Enfin, le suspense c'est insoutenable. Est-ce que ce sera Sex Machine ou Get Up, Get On Up, le générique,
la
tu vois,
originale.
C'est
vraiment...
Ouais.
Est-ce que je sais un peu plus d'effort.
Est-ce qu'il y aura Yoshi? On n'est un peu pas sûr qu'il y aura Yoshi, mais...
Est-ce qu'il arrivera au son de Walk Like a Dinosaur? le suspense est insoutenable.
Ouais, est-ce qu'ils font dans l'eau?
Ah oui, comme dans Mario Sunshine. Ah, meilleur passage. Bon, tout ça pour dire que le Mario Day était également riche en annonces de jeux. Enfin, annonces de jeux, les jeux étaient déjà annoncés, mais en annonces de date de sortie. Paper Mario et la Porte du Millénaire, ce sera le 23 mai.
Oui.
Paraît-il que c'est vachement bien.
C'est le même ou c'est un remake?
Ah bah tu vas nous faire la même, tu vas dire
c'est mon Gotti.
Voilà, ouais, c'est un remake là.
Ah bah oui, bien sûr, un remake de la version GameCube. Version GameCube adulée par les fans qui y voient le meilleur Paper Mario. Tu l'avais pas fait toi, Daniel?
Je sais plus la différence.
Ah bah celui-là il est vachement bien parti. Et l'autre jeu, ce sera le 27 juin, c'est Luigi's Mansion 2.
Ah
bah qui a battu le record d'endormissement. Je rappelle à chaque fois cette anecdote, c'est le jeu qui m'a endormi le plus rapidement de toute l'histoire, un quart d'heure et je me suis endormi. Voilà.
Mélatonine.
Comme Luigi.
Densetsu no mélatonine.
Donc on verra si avec un frame rate, ça maintiendra éveillé.
Faudrait faire le top du jeu le plus assoupissant.
Another Code, il est pas mal aussi. Hein. Désolé. allez, un petit détour chez Capcom. Capcom qui avait pas mal d'annonces à faire, notamment au niveau de ses succès. 7 millions d'exemplaires pour Resident Evil 4 en l'espace d'un an. Et bien, c'est un record de rapidité mérité, comme on l'avait dit l'an dernier à la même heure dans cette même émission. Je peux le dire maintenant.
Je crois que c'est FF16 sur lequel je me suis endormi le plus vite.
Ah
ouais. Ouais, FF16, ouais. ou le jeu là, Between Two Souls là.
Ah, Beyond Two Souls.
Beyond Two Souls, ouais.
Ah, alors que Resident 4, on s'en sort pas.
7 millions, le remake de Resident Evil 2, lui, avait fait 5 millions en un an, donc c'est encore plus rapide. Voilà, et la série culmine désormais à 155 millions d'exemplaires.
Ah, fait plaisir.
Ça reste encore aujourd'hui la série la plus lucrative, la plus vendue de chez Capcom. Dragon's Dogma 2, on l'a dit durant le segment, c'est déjà 2,5 millions d'exemplaires dans le monde en l'espace d'un mois. Et il y a une série qui est en train d'essayer de rattraper tout le monde sur la tablette, c'est Monster Hunter, puisque la série culmine, elle, à 97 millions d'exemplaires. Mmh. Si ce n'est ça, les 100 millions sont pour bientôt. On devrait encore avoir une annonce et peut-être qu'on la commentera le mois prochain. Ce qui est certain, c'est que Monster Hunter World, bah lui, c'est un énorme carton. C'est le plus grand carton de l'histoire de Capcom. 25 millions d'exemplaires, si tu inclus le petit bundle qui était vendu avec l'extension. C'est monstrueux, hein.
C'est la récompense.
Comme son nom l'indique. Monster Hunter Rise n'a pas réussi à lui voler la vedette encore. Parce que
mais Rise est sorti...
14,2 millions, mais il est sorti plus tard et il est sorti longtemps sur moins de plateformes.
Et en décalé.
Et en décalé. D'ailleurs, tant qu'on parle de Monster Hunter, sachez-le, vous pouvez le noter sur votre tablette. Monster Hunter Story sortira le 14 juin prochain sur PS4, sur Switch et sur Steam. D'ailleurs, il y aura également Monster Hunter Stories 2 sur PS4 le même jour. Voilà. Si vous voulez faire la doublette, eh bien, ce sera possible. Doublage intégral, contenu additionnel, mode musée. Bon, vous voyez, vous avez... Et je crois pas que c'était incroyable. Hein. Moi, je l'ai zappé consciencieusement.
Oh, c'était Monster le Hunter level Story. 5 de Monster Hunter. Oui, il s'agissait de
renouveler la cible.
Voilà, on faisait un Monster Hunter pour les enfants accompagné d'une série télé. Et puis ça n'a pas pris.
Capcom qui a procédé à pas mal d'annonces. Hein. Il y a eu échelonné sur plusieurs jours pas mal de jeux comme ça qui ont été présentés, dont un jeu dont on avait appris l'existence l'an dernier qui s'appelle Kunitsugami Path of the Goddess.
Ah oui.
On l'a peut-être un petit peu plus perdu de vue celui-là, mais voilà, il va marier à la fois Tower Defense et phase d'exploration façon Okami. Nous
et
sommes dans
et phase
le...
d'escorte.
Et phase d'escorte, oui.
Nous vraiment, sommes... c'est tout ce que j'ai en envie de jouer.
Le peuple des yokai doit être défendu. Et voilà, forcément, la nuit, ça devient de la baston. Donc l'idée, c'est de mêler à la fois recrutement et stratégie, gestion de ressources et stratégie. Ce sera en 2024 sur PC, PS5, Xbox Series XS. Et la particularité, c'est que pour amortir sans doute le coût de développement, il sera inclus Day One dans le Game Pass.
Ah!
Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour
c'est
ça.
Rare, hein, les Capcom, Day One dans le Game Pass. Bah le là, dernier,
tu
le dernier.
Clairement, tu sens que...
Oui, on ne sait pas où on va, mais
bah Microsoft donne de l'argent vite.
Le dernier, c'était Ghost Trick.
Ouais, c'est le réalisateur de Shinsekai Into the Death, vous savez, le jeu sous-marin.
Extraordinaire.
T'avais adoré, Daniel.
Vraiment un sleeper hit de la génération...
Shuichi Kawata, Switch. Qui bosse dessus. D'ailleurs,
et peut-être les meilleures musiques que j'ai entendues de Capcom en 10 ans.
D'ailleurs, c'est l'heure des, revalorisations salariales du côté de chez Capcom qui annonce à son tour une augmentation du salaire de départ. Il suit un petit peu la lignée des autres, de Namco, de Sega. On va passer de 1443 euros mensuels pour les jeunes recrues à un petit peu plus, 1842 euros mensuels pour tous les nouveaux arrivants chez Capcom.
Il faut faire venir les ingénieurs.
Il faut faire venir les nouveaux talents et surtout éviter qu'ils aillent dans des studios peut-être un petit peu plus lucratifs. promesse également d'augmentation de salaire régulière au fur et à mesure pour le reste du personnel.
Plus 5%. C'est pas du luxe au Japon.
C'est pas du luxe, surtout avec la dépréciation
du yen.
Qui
n'en finit pas.
Complique le recrutement et mais qui voit aussi la fuite et facilite.
Qui facilite les achats de figurines et de jeux importants.
Et les chococros, bien sûr. D'ailleurs, From Software, de son côté, a carrément décidé d'offrir des parts à ses employés.
J'ai envie de dire d'ailleurs.
Des chococros. Des chococros à ses employés. Voilà, carrément un intéressement qui sera offert sous forme de stock option. Et paraît-il,
bizarrement, dans les arcanes. Après Elden Ring.
Oui, je ne suis pas dans les arcanes du business au Japon, mais paraît-il que c'est un phénomène assez rare. Au pays du soleil levant, je ne sais pas comment.
Des intéressements dire.
Des intéressements et même des stock options.
Au Japon, c'est le pays des cash-in. Hein. C'est genre, t'es un employé et c'est tout.
Tout est dû à l'entreprise, quoi.
Ouais, c'est pas... Mais tu sais que même pour les stars, hein, c'est même pas garanti. Je crois que vraiment, les grands tournants de cette industrie, ça a été des gens comme... comme Nomura, justement, qui a posé son nom sur la jaquette et que, du coup, il avait... Des royalties.
Dans les industries, dans les sociétés japonaises comme ça, c'était la culture du bonus.
Mmh.
Plus que de. C'est-à-dire que tu avais un bonus qui parfois pouvait atteindre la moitié du salaire annuel.
Ouais.
Mais c'était des bonus.
J'aime à
croire. C'était pas de l'intéressement. Donc c'était au bon vouloir du. Alors, évidemment, c'était selon la performance de l'entreprise, mais c'était aussi au bon vouloir de la hiérarchie. Et le bonus, c'était quelque chose de très important, et ça l'est toujours dans les sociétés les plus traditionnelles. Mais l'intéressement... d'une manière générale, les sociétés japonaises, aujourd'hui, elles sont confrontées à la mondialisation du développement du jeu vidéo, et puis en plus, comme il y a mathématiquement moins de jeunes au Japon, il y a moins de jeunes ingénieurs qui sortent aussi des écoles, donc on essaye de séduire les ingénieurs étrangers. Merci le soft power. Donc, il y a plein de gens qui font des études scientifiques, de programmation, de modélisation, des ingénieurs sonores et tout, qui sont prêts à aller au Japon pour un salaire moindre que ce qu'ils auraient à la Silicon Valley, par exemple, parce qu'ils aiment le Japon, parce qu'ils ont envie de, et ils rêvent de vivre au Japon. Mais il y a aussi des grands talents qui, malheureusement, partent faire des jeux mobiles en Chine. Mmh. Et il faut attirer ces gens-là. C'est-à-dire, on peut leur dire, ouais, viens au Japon, c'est génial, c'est comme dans les animés. Mais au bout d'un moment, il faut de l'argent pour se loger, pour faire un gosse, etc. Donc, on commence à prendre les habitudes des sociétés occidentales, parce que sinon, enfin occidentales, des sociétés, on va dire, cotées classiques, parce qu'il faut être attrayant.
Ouais. From Software ne dit pas autrement, il est question d'augmenter la motivation et le moral des salariés, surtout les encourager à contribuer à l'amélioration des résultats et la valeur de la valeur de l'entreprise à moyen et long terme.
Surtout après ce qui s'est raconté à la fin des Denning, sur le traitement des... Sur le traitement des employés.
Bon, alors sans s'attarder sur l'aspect business des choses, hein, là on parle des sociétés qui vont bien, il y en a d'autres aussi où ça va un peu moins bien. Sega of America, enfin plutôt Sega d'une manière générale, a annoncé des licenciements, notamment au Royaume-Uni, 240 emplois ont été supprimés. De l'autre côté de la Manche, il y a même un studio qui est reparti en indépendance, c'est Relic Entertainment, après une vague de licenciements qui avait déjà frappé en 2023. Voilà. Bon, Sega of America, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Eux, il y a une première victoire, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un syndicat qui a pu négocier de meilleures conditions de travail, ce qui, aux États-Unis, eh bien, représente une convention collective historique avec la garantie d'avoir une mutuelle santé et, parmi les conditions de licenciement, ce qui paraît quand même assez hallucinant, mais c'est comme ça que ça se passe de l'autre côté du globe. Et on a également appris que du côté de chez Nintendo of America, si certains postes dans le QA, la Quality Assurance, avaient été sécurisés, eh bien, d'autres avaient dû quitter les lieux. Ménage un petit peu la chèvre et le chou, mais quand tu lis entre les lignes, tu comprends qu'en fait, il y a eu des licenciements également du côté de chez Nintendo of America.
Juste un mot pour rebondir dessus, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah ouais, mais le Japon, est-ce que ça veut dire que c'est plus clean et tout, parce qu'il y a la tradition de l'emploi à vie et tout ce genre de choses ?» Au Japon, d'abord, j'ai entendu dire que dans les prochains mois, ça va pas être réjouissant non plus de ce point de vue-là. Il y a une espèce de... d'horribles vagues de fond là, qui est en train de traverser toute l'industrie, sur laquelle j'espère que les grands médias vont un peu s'attarder. Jeff Kelly n'avait pas l'air d'en parler dans ses shows à lui. Mais en tout cas, au Japon, que malheureusement, le Japon va être touché. Mais là-bas, par habitude, on essaie de dissimuler ce genre de truc. Par exemple, on organise le déménagement de la boîte et... Avec le déménagement, on en profite pour dire à des gens vous irez pas, des départs anticipés. Voilà, on essaye de rester poli et de garder un peu le sourire de façade. Mais ça ne veut pas dire que les choses soient idylliques non plus là-bas. On ne peut pas vendre du rêve là-dessus.
On ouvre la page Square Enix avec plusieurs annonces qui ont eu lieu dans l'intervalle de ce mois dernier. Final Fantasy XIV Dawn Trail a désormais une date de mise en service. Ce sera le 2 juillet 2024.
J'avais
la prochaine extension attendue par Daniel. Et non seulement parce qu'on entend une musique un petit peu spéciale.
Oh, c'est Dunbine.
Chonchon, eh oui. Un teasing largement appuyé sur Final Fantasy IX. Et quand on questionne Naoki Yoshida... Oh. Durant la PAX East, il dit « Oh, mais c'est un secret !» Alors, c'est peut-être le secret le moins bien gardé de toute l'industrie. Mais c'est vrai que la rumeur d'un remake de Final Fantasy IX bruisse depuis de nombreuses années, en même temps que la série, l'adaptation animée, dont on n'a toujours
depuis
pas de nouvelles
ans,
d'ailleurs,
hein.
Depuis 3 ans. Mais bon, il a également rigolé, il a dit que ça laissait une semaine pour finir le DLC d'Elden Ring. Là, on voit Visions of Mana qui a eu droit à un nouveau trailer. Visions of Mana qui sortira dans le courant de l'été. On voit les différents... personnages principaux. On a également appris l'identité du studio qui est derrière. C'est un studio qui s'appelle Oka Studio, piloté par Yosuke Yoshida, un ex-combat designer de chez Capcom. Oka Studio qui a été fondé avec l'argent de NetEase, donc l'autre grand conglomérat chinois. Et Yosuke Yoshida a dit que la série Mana était une de ses séries favorites. Alors il va faire de son mieux en tant que réalisateur pour concrétiser la promesse. Un autre réalisateur très connu du côté de chez Square Enix, c'est Akitoshi Kawazu, que l'on voit dans l'image, qui était là le 1er avril. Alors, c'était pas pour un poisson, c'était simplement pour dire que le remake de Saga Frontier 2, qui a été annoncé il y a déjà plusieurs mois.
Ah, il a été leaké même. Hein.
Oui.
Je crois qu'il y a l'illustratrice qui a dit ouais.
Kobayashi qui a dit ah, j'ai hâte d'avoir Saga Frontier 2.
Et après, ça a été effacé.
Et après, le poste complet a disparu. Mais il a dit voilà, vous ne serez pas déçus. Mais il faudra encore attendre un petit peu. Donc pour l'instant, pas encore de nouvelles. Bah, faut dire que à quelques semaines de la sortie de Saga Emerald Beyond, on va pas couper l'herbe sous le pied de son propre projet en teasant un remake d'un jeu que des joueurs ont apprécié. Pas Daniel, hein, autant dire. Son test était sanguinaire à l'époque de son blog.
On parle de 96 ?
Non, c'est 99, je crois.
99
ah,
non, non, 97, 98.
Un autre remake slash remaster qui a eu beaucoup de succès du côté de chez Sumimasen Turbo, c'est Star Ocean The Second Story R qui a eu droit à une mise à jour de contenu.
Deux mois, trois mois plus tard.
Ouais, ouais, la mise à jour 1.1.
Énorme mise à jour.
Mode KO, nouvel équipement, surtout des nouvelles illustrations de Yukihiro Kajimoto qui sont absolument sublimes. Voilà, si. Vous cherchez un illustrateur pour vos JRPG, je pense que c'est comme le compositeur de Octopath Traveler, à mon avis. Ce sont des gars sûrs, défi d'édissage, galerie des fins, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut. Bon, si vous ne l'avez pas fait, c'est l'occasion de le choper pas trop cher et de
bah, kiffer. 10 boss cachés, un mode de jeu où tu meurs en un coup.
c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut.
Ça ressemble au Star Ocean original, quoi.
Ouais, exactement.
Revivez l'expérience originale.
Final Fantasy XVI, le portage PC est en bonne voie. Il y aura peut-être, qui sait, une démo pour voir si votre config tient la route. Là, on en est aux dernières étapes, qui sont quand même les étapes les plus compliquées, c'est l'étape d'optimisation. Faire en sorte que Final Fantasy XVI tourne sur des configs à peu près, pas, voilà, qui ne fassent pas
Steam
complètement
Deck,
souffler. Oui, oui. Ça va être compliqué parce que déjà que le jeu était particulièrement exigeant dans un environnement fermé comme la PS5, bah là, il va falloir faire en sorte que ça puisse tourner sur... n'importe quel PC, sur des bons PC.
Beaucoup d'effets scintillants quand même. Hein.
Ah bah là, il y avait de la paillette.
Il
n'y
a pas une autre news sur FF16 ?
Le second DLC arrivera le 18 avril 2024. Second DLC qui, je ne sais plus comment il s'appelle.
J'ai joué au premier.
Oui, c'est vrai que tu as joué au premier.
Ouais.
Et tu l'avais trouvé très passable.
Ouais. Si, les boss étaient pas mal.
Alors que nous, le DLC qu'on voulait, on vous l'a présenté, c'était le 1er avril lui aussi, hein, c'était les mésaventures de Bernard, le charpentier. merci à Lionel. Hein,
merci à Lionel.
Qui a tout donné, il m'interpelle à 14h, il me fait hey, « ça te dirait, on fait un poisson d'avril sur Bernard ?» Je fais « ouais, vas-y, et une heure et demie après, c'était fait. »
J'aime le Bernard Builder mode.
Moi, j'aime bien le nouveau challenge du scope.
À vous, tu t'es retenu de mettre charpentier Kuhn.
Non, mais c'est parfait. Donc, oui, les mésaventures de Bernard, mais bon, c'est désormais un personnage récurrent de l'émission. Donc, qui sait si on n'en entendra pas de nouveau parler.
Mais grâce à ça, je sais qu'il s'appelle Bernard, grâce à tout ce qu'on a dit.
Grâce à cette recherche.
Ah bah oui.
Allez, du côté on quitte Square Enix, mais on reste du côté du JRPG, côté Falcom. Ah. On a eu la confirmation d'un nouveau... Alors, c'est pas un nouveau Tokyo Xanadu, c'est un nouveau Xanadu, mais cette fois-ci à Kyoto. Kyoto Xanadu. C'est malin, hein ? 10 ans après Tokyo Xanadu, qui était en quelque sorte la personnalisation de la saga
Xanadu.
Avec, on partait plutôt du côté de l'action RPG, avec des labyrinthes, je sais plus s'ils étaient générés aléatoirement ou pas, je me souviens plus, parce que c'est vrai qu'il m'était un petit peu tombé des mains, mais là, ce sera un titre totalement inédit, avec des mécaniques et des systèmes de jeu repensés de zéro.
Si seulement ça pouvait sortir autour du 14 ou du 20 septembre.
Tu crois que ça pourrait être le jeu de septembre de Falcom ? Ils n'ont rien actuellement au planning ? Bah écoute, non. Je te contredis tout de suite.
Ah, déjà ?
Il est annoncé en 2025.
Voilà. Ah, donc ça veut dire qu'il y aura
septembre
autre chose.
Septembre 2025.
Ouais. Non, mais il n'y a pas un Trails qu'on a évoqué. Trails, après. Ouais. Si, c'est Trails, mais je ne sais plus lequel.
East Deluxe.
Oh, on regardera les anciennes de l'émission.
Je tiens à dire que j'ai joué à East EGG, mon gars.
Egg. Ça veut dire quoi, Egg ?
Egg, je ne sais plus, c'est leur système d'émulation.
Système d'émulation et système de... Alors, c'est pas de la location de jeu ? Ah, je ne sais plus.
Et du coup, c'est
un portail où tu peux soit jouer aux jeux, soit les acheter.
Alors, c'est un portail. Oui, et là, je l'ai acheté sur Switch. Ouais. Et ça coûte 2 balles. 2 euros. Donc, c'était Is 2. Donc, je me suis rendu compte à quel point j'ai joué moins souvent à Is 2 qu'à Is 1, évidemment.
C'est logique. Ouais.
Parce que forcément, tu devais te taper. Pour y jouer, tu devais te taper tout Is 1 sur NEC. Et c'est particulier parce qu'ils gardaient tous les loadings du PC. Donc, tu vois le loading, tu entends ta Switch faire scrooch-scrooch comme si elle était en train de charger. Tu as un pro tips pour éviter que ça charge, mais c'est la sensation d'époque.
Alors, c'est sur quelle machine ? Enfin, ça émule quelle machine ?
Je peux plus te dire, c'est pas un MSX, c'est un PC, je sais plus quoi.
Ça saccade comme ça.
Mais
ouais,
oui, c'est l'expérience originale.
Ouais,
bah, ça coûte 2 balles. Ouais. Mais du coup, EGG, en fait, ils font plein de... Il y a Xax, comme ça.
Ah oui, le chargement est...
Oui, t'as le chargement et tu vois le petit logo, la lumière, la diode qui est allumée.
T'es content quand tu t'es trompé d'étage et que tu dois te retaper.
Ah oui, alors honnêtement, le village à visiter dans ces conditions sont un peu plus durs. Mais par contre, il y a un truc qui est génial, c'est que la musique est...
Et d'époque.
C'est vraiment tellement... C'est ça, Falcom, ils sont intestables. Quelle que soit la génération, Falcom, ils sont intestables sur la musique.
J'ai... Non, j'allais dire une bêtise. Je sais plus si Yuzo Koshiro était sur le 2 ou pas, mais bon...
Sur le JDK Band, je peux pas.
On se fera corriger.
C'est peut-être.
On croise les doigts. Peut-être qu'on entendra reparler de Lunar tôt ou tard après la Grandia HD Collection. Eh bien, on a vu un dépôt de marque du côté du Japon. C'est le 11 mars dernier. Simplement un gros Lunar avec un gros dossier tout autour.
Gros Lunar.
Non, mais, qu'est-ce que je peux rien dire de plus. C'est bien.
Gros Lunar en gros.
Voilà, Lunar en
gros. Mais quand tu dis gros Lunar, on dirait un gros Molar.
Lunar en police 18, même plus.
T'imagines? Il y a un mec qui a surveillé et qui a dit ouais, mais
t'imagines Lunar 1 et 2 réunis dans une même compilation.
Ce serait incroyable.
Incroyable.
Écoute, si c'est la même qualité que Star Ocean Second, j'achète.
Mais qu'est-ce que va le Grandia Remake ?
Je crois que les portages n'étaient pas incroyables.
Chaque fois, il est.
Est-ce que ça dit toujours Fräulein quand tu rates un coup ?
Ah, je sais plus. Je l'ai lancé, j'ai regardé, j'ai dit ah là, c'est
la Grandia, traduction foireuse.
Oui, comme toutes les compiles par Fräulein au lieu de. Et quand tu ratais un ennemi, il y avait écrit Fräulein. Tu te souviens pas de ça ?
Oui, c'était incroyable. Ah,
oui, exact.
Ah, c'était super. Merci de me le rappeler, Greg.
Et pour les agendas, Shin Megami Tensei 5 Vengeance aura une semaine d'avance. Ce ne sera pas le 21 juin, mais le 14 juin. On rappelle, hein, c'est la version plus la version framerate édition. Ouais. Ça me fait toujours rire.
Ça donnera une semaine de plus pour y jouer pour le Suimasen Turbo 2.
Ouais, bah surtout que si la quête additionnelle dure 80 heures, on va. Alors j'espère qu'elle sera. Normalement, elle est censée être accessible tout de suite, hein, pour ceux qui ont déjà fait l'original. Mais...
Et normalement, les versions plus. D'abord, il sort sur PlayStation, ça oui. C'est vraiment la grosse nouveauté. Mais surtout, les jeux étendus, là, les versions Apocalypse, ou je sais pas comment ils l'ont appelé ce coup-ci.
Apocalypse, c'était un vrai jeu. Ouais.
Là, c'est un vrai jeu aussi. Hein.
Bah, là, t'as le jeu de base et t'as sa grosse extension.
Ouais, mais du coup, ça va être très très long et dur.
Enfin, je dis extension, c'est
personnalisation de Shin Megami Tensei.
Non, mais surtout, ça va être très long et dur.
Ah, écoute, jeu.
Comme
jeu...
le service militaire, Uber, oui, t'as bien raison.
Jeu très chouette. Mais oui, assez spécial en termes d'ambiance, forcément. C'est Shin Megami Tensei, on n'est pas là pour rigoler. Du côté de chez SNK, plusieurs, alors c'est pas vraiment des annonces, mais plusieurs confirmations avec un joli trailer pour Fatal Fury City of the Wolves, alias Garou 2. Alors on dit Garou, en fait on dit Garo, hein, mais moi on aime bien Garou.
Garou.
Garou l'intermittent. Avec. Début d'année 2025, donc on l'aura pas cette année, c'est un petit peu triste, mais du coup on se donne rendez-vous l'an prochain pour un Suimasen Turbo et un défi. On a eu quelques petites précisions au niveau du système de jeu, on a vu que le Rising Tackle de Terry Bogard touchait en diagonale, ce qui me paraît assez abusé, mais on verra dans quel... Puis les petits effets là
qui les accompagnent... Il était temps même, j'ai envie de dire.
Les petits effets là qui les accompagnent, c'est plutôt stylé. Avec toute une mécanique autour du rêve. Alors les rêves arts, les rêves Axel, les rêves blow, les rêves guard.
Rêve rave.
Ouais.
Pas rêve.
Rêve, oui, REV. Ouais. Oui, rêve. Si tu Religion, pas... Revolution, je ne sais pas.
Est-ce que tu vas laisser passer les rêves?
Ah,
t'as vu ça?
Elle est belle celle-là. Ouais.
Mais bon. Y a pas que les grands qui rêvent.
C'est oh là là là!
Et Otaru Futaba, que j'aimais bien, mais qui était un petit peu lotière de mémoire, mais voilà. Et puis toujours ces effets visuels dans la lignée de KOF 15, mais en plus élégant, je trouve. Bon, on va voir ce
avec
que ça donne.
Avec un personnage qu'on soupçonne être la disciple de Joe Higashi.
Exactement. Adepte du Muay Thai, elle aussi, comme sans doute son maître, mais on aura la réponse plus tard. D'ailleurs, est-ce que Joe Higashi sera là? A priori, il n'était pas dans le premier.
Non.
On n'a pas entendu sa voix dans le générique. Bon. Le suspense est total. SNK qui se rapprochera également d'Arika. Arika qui a signé plusieurs succès et même plusieurs succès baston. Mais là, ce serait. Donc, notamment les Street Fighter EX et les Fighting X-Layer. Mais là, ce serait pas pour bastonner. Ce serait pour revisiter certaines propriétés intellectuelles de SNK. Alors, lesquelles, on ne sait pas, mais sous un nouvel angle. Donc, on en saura plus dans les mois prochains. Est-ce qu'il y a une. Comme ça, une licence SNK que vous aimeriez revoir?
Moi, j'ai envie de dire, ça sent le Metal Slug saoudien.
Peut-être.
Magician Lord.
Ouais. Un Magician Lord, ouais, peut-être, qui sait. Allez, on termine rapidement, comme toujours, Hubert, tu sais bien, sur les petites news un petit peu pourries. Tu parlais tout à l'heure de Dragon Ball Z Kakaroto. Eh bien, Dragon Ball Z Xenoverse 2, non, plutôt Dragon Ball Xenoverse 2, n'en finit plus de s'enrichir. Un jeu qui a été lancé en 2016. Hein. C'est, alors ouais. Je dirais pas que c'est le métaverse de Dragon Ball parce que c'est pas vraiment.
Non, mais il y a du DLC.
Il y a toute une partie en ligne particulièrement développée. Avec là encore, on a même eu droit à une nouvelle feuille de route pour annoncer eh bien, l'arrivée d'un nouveau DLC sur la saga du futur au printemps 2024. C'est l'arrivée du jeu.
J'ai cru que c'était Kakaroto quand j'ai
fin mai sur PS5 et sur Xbox Series XS. Je pensais qu'il était déjà sorti, tu vois, mais en fait pas du tout. C'était Dragon Ball FighterZ. Et puis, bah, ce sera le premier des 4 chapitres. Donc on va encore en bouffer. C'est un jeu qui a une longévité absolument sensationnelle. Mais c'est vrai que si tu veux jouer à un jeu en ligne Dragon Ball, bah t'as pas tellement d'autres choix que celui-là pour l'instant. Enfin,
ah, il y a un nouveau Sangoku ajouté quand ouais, même. C'est ce qui manque. C'est ce qui manquait, je pense.
Bah, tu le voulais, hein. Alors on part sur toute autre chose.
C'est pas sur le nouveau prochain Sparking où ils ont déjà annoncé 18 Sangoku.
Oui, bah si, bien sûr. Pour l'instant, ils n'ont annoncé que des Sangoku et des Vegeta.
Il y a 30 personnages, c'est que des...
On vieillit tous, et Pro Baseball Spirits également. Je me souviens encore, rédigé l'annonce, l'actu de son annonce était en 2004. Eh bien, Pro Baseball Spirits va revenir 20 ans après sa première apparition sur console dans une version 2024-2025 avec un nouveau moteur graphique, l'Unreal Engine, un nouveau moteur de jeu, l'E-Powerful, l'E-Baseball Engine, pardon. Et bah c'est l'occasion de voir à quel point Konami a encore
tu vas pouvoir compter les taches de rousseur sous, ouais. Sur les têtes des joueurs.
A encore des sous pour ce qui marche. On rappelle que Powerful Pro Baseball, c'est un carton sensationnel sur mobile depuis de nombreuses années, forcément. Et bien, quoi qu'on en dise, le baseball reste un sport, le sport roi.
Il y a de l'argent.
Au pied du soleil levant. Et bah c'est l'occasion de revisiter tout cet univers-là. Moi, j'avais adoré les épisodes PSP, Vita et PS3.
Avec le mode quête.
Ouais, c'était vachement bien. Ce sera peut-être l'occasion de rebrancher. Le gameplay était plus accessible que la série concurrente américaine qui, elle, demande quand même un certain doigté. Shinji Mikami va ouvrir un nouveau studio. Et savez-vous comment ce studio s'appelle ?
Mikami.
Il s'appelle Kamui, mais avec un Y. Ah. Eh oui.
En hommage aux Ainu, bien sûr.
Bien sûr, bah non, en hommage à Sumi Masen Turbo, dont il est un fan invétéré, ouais. Hein, c'est sûr. Voilà, c'est une petite info qui a émané du site d'un prochain remaster, le remaster de Shadows of the Damned.
Surtout, ce qui sera intéressant, c'est de savoir à qui appartient vraiment le studio.
Oui. Shinji Mikami, qui est quand même 58 ans, hein, lui aussi, bientôt candidat à la retraite.
Mais il a encore un ou deux
jeux. Il a dit qu'il voulait faire un ou deux jeux. Ouais. Et
il a encore
le feu sacré, il veut encore, mais il veut se débarrasser un petit peu de toutes les tâches ennuyeuses, ouais. Dit-il.
Je veux qu'il réalise un jeu où des mecs portent des scaphandres avec des réacteurs sur les tibias pour aller plus vite, pour dégommer les communistes de l'espace.
Ah, tu veux faire Deep Down ?
Je veux dire Vanquish 2. Je veux Vanquish 2.
Vanquish 2. Ouais. Oui, c'est vrai, les communistes, j'avais oublié ça.
Ils étaient communistes, ouais. De l'espace.
Daniel, est-ce que tu avais acheté un PSVR 2 ? Je ne me souviens pas, je sais que tu es l'heureux possesseur, non, l'heureux détenteur d'un portal. Mais...
Tu sais qu'on en a un ici, et c'est un ami commun qui l'a
traité. C'est vrai, exact.
Et quel est l'objectif de ce PSVR 2 ?
Ah,
c'est faire jouer Hubert à Resident Evil.
Bon, tu veux dire
le problème, c'est que si on tue Hubert comme ça, d'abord, ouais. Ça sera devant les caméras, donc tout le monde le verra. Et Hubert, est-ce que t'as envie d'y jouer, Résident ? En VR. En VR. D'accord, voilà.
Mais est-ce que si la communauté Sumi Masen Turbo se manifeste dans les commentaires pour demander...
Est-ce qu'on peut faire un palier Patreon rien que pour ça ? Rien que pour ça.
Ah, le micro
d'Hubert. Il a dit qu'il n'avait pas envie. Il a dit qu'il avait envie. Pardon. Il avait envie.
Ah oui, là. Vas-y, Hubert, tu fais
les patriotes
se manifestent. Nous en double. Ah oui, qu'est-ce que j'ai envie. Bon, allez, je rassure-toi, Greg, on a bientôt terminé. Ça veut dire qu'on ne pourra pas écouler les excédents de PSVR 2 du côté de chez Sony. Parce que Bloomberg nous le rapporte. Sony aurait suspendu carrément la production de son casque de réalité virtuelle. C'est bizarre. Hein,
c'est étonnant. Hein.
Pas de titre first party, pas de rétrocompatibilité.
Merci encore à l'ami commun qui nous a prêté.
599 euros de tarif de lancement à une époque où
il n'y a pas de
où il n'y a pas d'argent, ça commence à être un petit peu compliqué.
Je comprends pas ce lancement, je ne comprends pas.
C'est bizarre, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient quand même réussi à.
La tech qui est super. Hein.
Ils avaient quand même réussi à faire éclore un marché. Bon, après, c'était en 2016 quand la technologie était véritablement enfin poussée, plus qu'émergente, mais enfin arrivée à maturité. Là, ils ont quand même mis pas mal de bâtons dans les roues. Ils stagnent, c'est moins qu'on puisse dire. Et on termine avec l'annonce que personne n'attendait. L'annonce surprise, l'annonce incroyable.
Scoop-pou.
En quelle année alors, je sais pas si c'est vraiment un scoop-pou, mais en quelle année sommes-nous ? C'est le retour de l'import dans les boutiques Micromania.
Eh oui.
Ah !
Parce qu'il faut le savoir, dans des temps immémoriaux,
Ah bah oui,
Micromania au début
j'ai acheté mon Aeroblaster à Micromania.
Pas mal de gens ont acheté des jeux. Bah, j'ai acheté Streets of Rage, le premier en Genesis.
Je crois que j'ai acheté FF3 chez Micromania.
Final Fantasy 3, ouais, c'est ça, chez Micromania. Chrono Trigger, on pouvait le trouver là-bas.
J'ai vu mon premier Mega CD là-bas.
Exactement, mais Mega CD import. Eh bien, Micromania s'y remet. Seulement 79,99€ pour The Adventure of Die sur Switch. Hein. Qui dit mieux ?
Bah, et surtout, il n'est pas dispo en physique.
C'est des versions Asia. Comme,
des versions Asia, comme donc avec les localisations anglaises, évidemment. Des versions un peu plus difficiles à se procurer dans les
boutiques.
Mais on n'a pas tous ce trader et les boutiques de République
chez les gassures
de trader, ils l'ont. Ouais. Mais voilà, Micromania rouvre sa porte pour trouver des débouchés. Incroyable,
Mais en tout cas, bravo.
Je rajeunis.
Bravo. Ah ouais, non, franchement, je comprends.
Ben voilà. On a terminé pour ce tour de l'actualité du jeu vidéo.
C'est tombé un peu à plat.
Il y a deux choses dont on n'a pas parlé. C'est qu'on n'a pas parlé de la démo, de la bêta d'un jeu qu'on a attendu 10 ans. Mm. Bah, 10 ans, peut-être 7.
Un peu moins, oui.
5, il est annoncé depuis combien de temps ?
J'ai joué en 2017 la première fois.
Et moi, j'y ai joué cet été la dernière fois. On parle bien sûr d'Inazuma Eleven.
Ouais. J'aimerais ton avis sur Inazuma Eleven.
Il est pas nul du tout.
Victory Road.
Il est pas nul du tout. C'est plutôt agréable à jouer. Moi, franchement, je me suis bien marré.
Ouais.
Le seul problème, c'est que, en fait, comme c'est un assemblage de mini-jeux et de manips qui sont des mini-jeux en tant que tels, toutes sont pas au même niveau. Par exemple, quand tu dois faire un blocage, c'est pas la même manip qu'une passe et tout, mais il y a des trucs qui sont meilleurs. Là, j'adore passer les mecs comme ça quand tu fais un passage en force. C'est super, vraiment c'est assez grisant quand tu commences à maîtriser la méthode. J'espère que le mode story soit au rendez-vous pour un truc intéressant.
Il y a tout un aspect level up, un aspect collection de personnages que tu peux fusionner avec d'autres en fonction de leur niveau de rareté. Ouais. Toute une interface avec des gros boutons qui me font penser que si jamais ça venait un petit peu à péricliter ou que des plans d'une adaptation free-to-play restent dans les cartons.
Étonnant d'ailleurs qu'il y ait autant de tutos. J'ai jamais vu un jeu avec autant de tutos.
Le premier match, tu ne joues pas, tu ne fais que lire des fenêtres.
Genre, ça s'arrête, tu cours
et tu te prends 3-0.
Plop, fenêtre.
Et en fait,
alors la passe.
Alors la passe, c'est B. Oui, d'accord,
et honnêtement, quand tu commences à prendre le truc en. Franchement, ça c'est un soumis à scène combo, toi contre moi.
Ah bah si tu veux. Ah oui, j'ai vu que t'es.
C'est sûr et certain.
Après Suika Game, il faut que tu trouves un nouveau terrain d'expression, j'ai envie de dire.
Écoute, dominer sur deux jeux, ça me dérange pas.
Fais attention au foot, dominer n'est pas gagner.
Oui, ça c'est vrai.
Alors ça c'était le premier truc, c'est quoi le deuxième truc ?
Le deuxième c'est qu'on a joué à Stellar Blade.
Ah oui, oui mais c'est pas français. C'est pas japonais.
Alors c'est pas japonais mais on n'est pas, excusez-moi, on parle aussi de l'Asie. Et l'inspiration est là quand même, c'est Bayonetta meets Nier Automata.
Ouais, PT0 de...
PT0...
PN03.
PN03.
Mais...
PT03 c'était son surnom parce qu'il était un peu pété.
Et surtout, il y a une dimension Soulsborne à laquelle on n'était pas forcément préparé.
Et honnêtement, alors la mise en scène est assez intéressante. Je trouve ça plutôt...
C'est stylé, hein, franchement.
Vraiment, c'est assez réussi. Ce qui peut déranger évidemment les gens, évidemment, c'est le côté exploitation maximale. C'est-à-dire que vraiment...
Ah, moi, ce qui me gêne, c'est les cheveux qui traversent la meuf. Hein.
Oui, il y a un mode cheval courte.
Ouais, ouais. Il vaut mieux. Hein.
Moi, je trouve ça bizarre de... Si jamais tu dis pourquoi c'est plus ça que Nier Automata. Et,
C'est pas vraiment le même genre, même registre.
Le même registre d'exploitation.
Il y a quand même une difficulté qui est assez élevée dans le
jeu. Ah non, j'entendais sur l'univers.
Ah oui, d'accord.
L'univers, pardon, et tu vois ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
La sexualisation
des robots. Ouais.
Okay.
Après, Nier Automata, c'est une œuvre extraordinaire, alors qu'il y a quand même une part, évidemment, de
subjectivité.
De fanservice, exactement.
Quand même des robots soubrettes qui viennent sauver le monde. Hein.
Voilà. Tu
sous-entends qu'il y aura moins de philosophie dans celui-ci ?
Je pense que Sartre ne sera pas dans celui-là, mais c'est moi. Pascal et Sartre ne seront pas dans cet épisode. Après, je ne voudrais surtout pas juger de tout un univers basé sur une démo. Je pense qu'il faut avoir tout le contexte. Et j'ai compris qu'ils essayaient quand même d'élaborer un univers un peu baroque, un peu Ghost in the Shellien. Je lui donnerai sa chance.
Tu sais ce qu'on disait dans le jargon à l'époque ?
Comment ?
Dégageons que.
Comment tu m'as eu ?
Gageons. Eh bien, gageons que la prochaine émission soit aussi riche que celle-là. Enfin, ça va faire du montage.
On a encore du director's. Hein.
On a encore débordé, chef. Mais qu'est-ce que vous voulez
Hubert, combien de temps
Obama. Michel Obama.
Parce qu'en fait, on tourne et on ne sait pas du tout combien de temps ça prend. Hein.
Ouais.
Je dirais 3 heures.
Oh, bah ça va, on reste dans les canons. Okay. 3h40. Bon.
Oh. Non.
En fait, Seigneur des Anneaux, version longue, finalement. C'est pas.
Hubert, soumis ma Senkai.
Ouais. Soumimasen, hein, pour ceux qui ont trouvé ça trop long. Et, et on se retrouve le mois prochain, toujours avec le même sourire et la patate pour toujours plein de jeux. Merci de nous avoir suivis. Merci encore aux Patriotes qui rendent cette émission pérenne.
On va dire les patrons parce que
Patriotes, ça se dit pas.
Mais non, mais parce que ça
ressemble pas. Chevalier.
Chevalier.
Ça marche aussi.
Chevalier. On remercie. En tout cas, sans eux, cette émission ne serait pas possible. C'est ce qu'on expliquait dans le live. Si c'était que le YouTube Money, on peut pas faire venir ce mec sur une émission. On peut pas le venir de Bordeaux. On pourrait le faire aller jusqu'au tramway jusqu'à Bordeaux. C'est tout ce qu'on pourrait faire. Et ça serait dommage de faire ça sans toi, Hubert. Je peux pas mettre la pression.
Je pense que l'émission en pâtirait un peu. Hein.
Je peux pas mettre la pression sur toi, mais sans toi, rien ne va.
Ouais. Sans toi.
C'est Sarah, sans Sarah.
Oui. Si tu
reviens, j'annule
tout. Ah, oui, si Hubert n'était pas là, on annule tout. Bon, voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Et au mois prochain. Greg, il n'en peut plus.
J'ai pas ses refs.
Vite, antihistamine.
À la prochaine. Et d'ici là, jouez bien. Et ciao. Profitez bien de la vie. Ciao.
Sayonara.
À bientôt.
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。